1, 2, 3, shake. It's okay. That's it, man. Wait. That's it, man.
Bon, ben voilà, on est un petit peu en retard sur Provoscopie, mais c'est pas bien grave. On a quand même le maire de Castelnau qui est là à côté de nous. Alors, Provoscopienne, Provoscopien, c'est déjà le 5e opus de cette nouvelle formule. Cette émission est diffusée sur Divergence FM le lundi entre midi et 13h, ou des fois un petit peu plus tard. Bon, rappel pour quelques auditeurs courageux qui sont prêts à entendre les élucubrations d'un loup, d'un renard et d'un coup de clairon, d'un majeur animateur que je suis. Alors j'ai pris en charge, on va dire, l'ordre dans le foutoir provoscopien. Je juge mes chances de le maintenir quasiment à nul. Pourtant, il paraît que trois fois rien, c'est toujours mieux que rien du tout. Le loup, lui, il est prêt à mordre tout animal se risquant à franchir l'enceinte du poulailler de Divergence. C'est l'historique de Provoscopie, le membre fondateur, le garant de l'impertinence de cette émission. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est que vous n'avez jamais écouté Provoscopie. Alors il n'est jamais trop tard pour mal faire. L'autre impertinent de longue date, c'est le renard, celui dont les invités ne se méfient jamais assez. On l'entend, c'est souvent déjà un peu trop tard. Parfois, il mute en Zorro, qui veut dire renard en langue de Cervantes. Mais il ne sauve pas toujours les invités, loin de là. Alors reste l'invité lui-même, le courageux, l'intrépide, qui a osé franchir les barrières menant à la table du studio. Alors quand il était petit, on a dû lui dire bien trop souvent « tu l'ouvriras quand tu seras grand ». Alors, comme son patronyme était grand, il n'a jamais hésité à l'ouvrir. Et plus le temps passe, moins on peut l'empêcher de dire haut et fort ce que les collègues politiques n'osent même pas chuchoter à l'oreille des médias. On peut le qualifier d'homme libre, comme on parlait en d'autres temps de France libre. C'est avec donc délectation que Provoscopie reçoit en ce jour Jean-Pierre Grand, sénateur, maire de Castelnau-le-Lez. Il a décidé pour les élections régionales à venir de mettre les pieds dans le plat en refusant de voir certains régner, c'est le cas de le dire, en consentant à rallier son ambitieux confrère de la ville d'à côté. Don Quichotte des Républicains, il a toujours revendiqué d'en être. Oui, mais pas n'importe comment, ni avec n'importe qui. Républicain, cela ne se décrète pas. Cela se mérite. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas besoin d'une chambre louée chez un parent pour pouvoir se présenter aux prochaines élections. Il est éligible. En avant, mes cas d'idées. Je sens cette émission est faite pour vous. Alors on va passer la parole au loup, puis après on va discuter avec le maire de Castelnau.
La chronique du loup, alias Yves Le Bozec.
Ah, cher Jean-Pierre. Errare humanum est. Perseverare diabolicum. Elle semble être la maxime augustinienne d'un sénateur castelneuvien de nos connaissances. L'homme en question débuta son cheminement politique en s'acoquinant avec le duc d'Aquitaine, un de ses généraux encore juvéniles et stratège d'une nouvelle société, en contre du fameux joli mois de mai. Puisque l'un se disait gaulliste, l'autre le devint. Aussi un peu comme Félicie, quoi. Enfin, de gaulliste en amouré à vilpiniste flamboyant, il accompagna le millénaire finissant dans ses dérives pompidolo-chiraquiennes, grognard de la République, qui le lui rendait bien en lui permettant de vivre de la démocratie. Il s'exécuta durant un bon tiers de siècle. Et pourtant, dès les premières heures, ses compagnons de route auraient dû se méfier. Plus que gaulliste, il était chabaniste. Il pratiquait l'indépendance nationale à sa façon, bien à lui, dans la série « Cogito ergo sum », « Je pense, donc je suis », à la manière d'un grand, celui de Montpellier, lui qui se fichait de la Mitterrandie comme de l'an 40. Alors, entre grands, ils s'apprécièrent au point de, parfois, collaborer, oh le vilain mot, ensemble. Mais depuis que son mentor néo-bonapartiste s'est fracassé sur la confiance que les Français lui refusaient, le voilà qui s'abîma dans des tristesses orphelines. « Tom Pousse, dit le petit Nicolas, à la tête de la famille, ah non, non et non !» Et alors, à croire qu'il venait de lire « Le malheur russe » de Hélène Carrère-Dancos, il entreprit de jouer les trublions. L'emmerdeur à la mode de Brel, l'empêcheur de tourner en rond, l'importun qui perturbe l'assemblée du cercle familial, le tonton flingueur muté en sniper. Mais si le garçon sait être redoutable, et par là même redouté, il n'est jamais aussi bon que derrière un chef, un héros, un qui fait rêver. Ah, le grand Georges aurait bien pu en être un, mais il n'est plus. Alors notre JP, le grand de Castelnau, peut être atteint de foubertite aiguë. Trouva celui qui prendra grâce à ses yeux et de se soréliser en guise de vaccin contre la pandémie sarkozienne. Et voilà comment mon grand, resté petit chez les grands républicains, devint en une poignée d'élections et de voix un grand chez les petits démocrates appelés citoyens du Midi. Même pas viré de son cercle. Tiens donc, joker des républicains pour faire la nique aux libéraux désocialisés ? À voir. Ou Talleyrand du Midi pour punir le nain ? Pourquoi pas ? Il est justement midi, et quelques fractions de seconde égrenées de par l'ineffable major. Il est l'or. Il est l'or, monseigneur. L'or de se lever et fonder une nouvelle démocratie, pas la délégative, comme le dit Pierre-Rosan Vallon, mais de proximité, participative même. Une démocratie fondée, pourquoi pas, sur le tirage au sort. Sur le pouvoir direct exercé par les citoyens qui le sentent. Une démocratie qui rangerait aux oubliettes de l'histoire tous ces vieux démons pseudo-républicains, ces libéraux macronisés, oublieux du partage. Une démocratie humaine et effrontée qui éviterait les abîmes racés et frontistes. Le Midi innove en ces élections régionales. Le peuple est appelé à rester citoyen en déléguant son pouvoir sur un espace indéfini pour des pouvoirs incertains. Un sommet du foutage de gueule. En grand, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'un Sorel filou et divers droite rencontre un grand Sorel divers gauche, ou l'inverse si vous préférez, on sent comme passer le vent du boulet sur la vieille classe politique bouffée par les verts à gauche et gangrénée par le cancer nicolaïen à droite. Bref, voilà-t-il pas une liste qui a de la gueule, celle des citoyens du Midi ? Causons-en avec notre sénateur Castelnauvien, un grand parmi les petits, il en dit quoi de la classe vermoulue ? Il en dit quoi de la République et de la démocratie ? Il en dit quoi de l'avenir, lui qui a connu un temps que les moins de 40 ans n'ont pas connu ? Écoutons-le religieusement et reprenons en cœur son proverbe référent « Errare humanum est, perseverare diabolicum, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique, il s'est trompé de camp jadis, il ne persévère pas. » N'est-il pas, Jean-Pierre Grand ?
Eh bien voilà, alors c'est une belle introduction de notre loup. J'espère que vous avez goûté à notre humour un peu piquant. Et on va laisser vous laisser parler maintenant de cette nouvelle, de cette liste dans laquelle vous êtes et que vous représentez donc pour ces élections régionales qu'on a du mal à bien cerner pour les auditeurs. Hein. On a du mal à savoir exactement quels sont les enjeux. Alors vous allez nous en parler.
Oui, alors rester républicain, c'est diabolique.
Alors le renard.
T'es devenu démocrate maintenant.
Lui c'est le loup.
C'est le loup.
Le renard il est muet.
C'est lui le renard.
Le renard il est muet.
Voilà. Pour le moment.
Alors le loup qui fait parler de lui, hein, dans les Hautes-Alpes. Mm. Il faut le protéger le loup. Ah, mais il faut faire attention au loup quand même parce qu'il nous tue des brebis. Et moi qui suis un ancien élu du Larzac, je suis très attentif aux troupeaux de moutons.
Je vais finir par miauler moi.
Mais vous savez que. Ma première élection, c'était sur le Larzac.
Ah oui ?
Vous allez voir que je ne fais allusion à personne. Je suis arrivé là-haut.
J'étais la cavalerie.
À la cavalerie. J'avais de la famille, donc des attaches familiales. Je n'étais pas éligible
oui.
En 1976 pour les élections municipales de 1977. J'avais 25 ans. Je n'étais pas professeur dans une grande école. Mais j'avais compris que la démocratie était exigeante et que la première exigence était de se mettre en règle. Alors naturellement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté un petit lopin de terre, 700 francs à l'époque. 700 francs.
Une somme.
Hein, 700 francs, bah non, c'était quand même pas... En plus, c'est mon père qui avait payé parce que je n'avais pas un rotin dans les poches. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je suis devenu éligible parce que je payais l'impôt. Et j'ai été élu naturellement en 77. Nous sommes en 2017, faites le calcul. Donc, tout ça pour vous dire que quand on se lance dans une aventure politique, il faut avoir des bases. Et la première des bases, elle est idéologique. Alors, moi qui suis gaulliste, en écoutant ce que disait le loup, je veux dire que le gaullisme, ça me va très bien. Pourquoi ? Parce que c'est une anti-doctrine. Et dans ma carrière, dans mes comportements, dans mes réactions, dans mes engagements, dans mes soutiens, dans mes réflexions, j'ai toujours été dans cet esprit-là, c'est-à-dire d'abord l'intérêt général, et l'intérêt général, vous le trouvez dans une réflexion qui s'écarte des réflexions partisanes, qui, elles, le soutiennent, bien naturellement, ne sont là que pour soutenir les intérêts partisans.
Un homme libre, comme je disais.
C'est pas être libre. C'est pas être libre, c'est avoir un cap. Or, aujourd'hui, cette élection régionale, elle doit avoir un cap. Et elle n'avait pas, jusqu'à ce que Philippe Sorel se présente, de cap. Le Parti Socialiste défendait le Parti Socialiste, l'UMP défendait l'UMP, il défendait à tel point qu'ils ont parachuté un pauvre garçon qui est perdu, hein, et le Parti Socialiste, naturellement, traîne comme un boulet, hein, le bilan de cette première année de gouvernement et ces divisions qui deviennent, effectivement, quand on est dans la difficulté, qui deviennent très apparentes. Et là, vous avez quelqu'un qui dit, voilà, on fait une grande région, 6 millions d'habitants, premier acte politique. Il faut qu'entre Montpellier et Toulouse, hein, il y ait une cohérence. Il faut qu'on travaille ensemble. Le maire de Toulouse est de droite ou du centre, enfin, il n'est pas socialiste, et le maire de Montpellier ne l'est plus. Mais il reste quand même très attaché aux valeurs de la gauche. D'ailleurs, tout le monde est attaché aux grandes valeurs. Et là, c'est un premier pas. Ensuite, on observe ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe ? Pas de programme, des distributions de subventions qui tiennent lieu de discours politiques, et de l'autre côté, le parti politique et Nicolas Sarkozy qui nous parachute dans une région de 6 millions d'habitants un zozo qui vient de Paris et qui en plus n'est pas éligible.
Eh bien, à propos de Nicolas Sarkozy, justement...
Laisse-moi finir. Parce que ça, il y a un fil conducteur dans ce que je dis. Et là, c'est quoi ? C'est 5000 élus locaux qui sont insultés. En plus, quelqu'un qui nous explique comment il va gérer les choses. 5000 élus locaux qui ont travaillé depuis des années, parfois des dizaines d'années, pour faire cette région, pour la peaufiner. Nos deux régions, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Nous travaillons, nous construisons, nous inventons. On nous envoie un mec de Polytechnique, de Sciences Po. Et qui, en plus, est porteur d'une idéologie politique qui n'est pas la mienne. Il est pour l'Europe supranationale. C'est une horreur. Il est pour l'entrée de la Turquie, c'est une horreur. Il est pour la GPA, c'est une horreur. Et vous voulez que je le soutienne ? Non, il faut le combattre.
Alors comment ça se fait que t'es pas encore viré des Républicains ?
Mais parce que franchement, je suis parlementaire. Je suis membre du groupe de notre groupe au Sénat. Je fais un travail qui honore ma famille politique. Et vous voulez que on me vire et qu'on fasse la promotion de quelqu'un qui n'a même pas été capable de régler sa situation administrative pour se présenter. Mais enfin, c'est quand même je veux bien qu'il ne soit pas bon, mais il y a des limites.
C'est quand même incroyable, Monsieur Grand, de constater qu'un parti comme le parti Les Républicains, qu'on appelle maintenant, qui était vraiment l'UMP, présente quelqu'un sans prendre des garanties.
C'est la mode parisienne.
C'est incroyable.
C'est le 6e arrondissement. C'est tout ce que nous ne voulons pas. Moi, ce que je veux, je vais vous le dire. Ce que je veux une vision pour la région. De 6 millions d'habitants, avec 2 milliards et quelques poussières de budget, on sait tous que c'est insuffisant. D'ailleurs, Monsieur Régnier, quand il parle de budget, il mélange tout, il se trompe. Hein. Il nous a expliqué qu'il allait mettre chaque année 200 millions qu'il allait récupérer sur les ordis. Or, les ordis, c'est pas 15 millions. Vous voyez que, bon, même les chiffres, il les connaît pas. Enfin, c'est pas grave.
Et puis, c'est une bonne mesure, ces ordis.
En plus, quand on lance 200 millions par an, il faut regarder. C'est pas 200, c'est 15 en Languedoc-Roussillon. Et s'ils le font en Midi-Pyrénées, c'est le double. Ça peut pas être beaucoup plus. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la vision. Qu'est-ce qu'il faut penser? Quel est le sujet aujourd'hui? Quelle est l'ambition d'un candidat? Quel doit être l'axe ? C'est de comprendre tout de suite qu'avec les textes qui sont les textes d'aujourd'hui, on ne peut rien changer à la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Il y a 550 000 chômeurs. Il faut absolument qu'on industrialise cette région. Pour l'industrialiser, ça ne se fait pas avec des discours, ça se fait avec des actes et des textes. Or, les textes aujourd'hui, sont totalement, les textes et les règlements et les lois, les obligations, font que si nous voulons aujourd'hui faire venir à Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, des industries, quelle qu'elle soit leur taille. Il faut revoir les choses. Il faut que nous créions ici, que nous soyons attractifs, et en particulier sur le plan fiscal, sur le plan social. Et il faut donc créer de grandes zones stratégiques franches pour, qui répondront à des besoins ponctuels dans des secteurs qui sont des secteurs étendus. Il faut avoir une véritable idée. Il faut que les parlementaires de cette région se battent pour faire évoluer les choses. Quand j'entends certains candidats, dont ce Régnier, qui nous explique qu'il va construire ceci, cela, il ne sait même pas que la loi littorale ne nous permet même plus de construire une petite niche pour notre chien, hein, à 30 ou 50 kilomètres du bord de la mer, etc. Mais il faut, il faut revoir les choses. Il faut que l'État décide que les régions seront des régions. Qu'on crée, et je l'ai proposé, je crois même que j'ai déposé une proposition de loi, créer un conseil des présidents de région à l'Élysée pour harmoniser la politique de nos régions. Il faut revoir complètement un certain nombre de mesures techniques, administratives, fiscales, qui sont des freins à l'économie de nos régions. Des mesures, il y en a plein. Mais ces mesures-là, ils s'en foutent. Ceux qui veulent, ce sont des places. Hein, ils veulent être élus. Ils veulent palper 2500 euros par mois. Et bien moi, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le vrai sujet aujourd'hui, hein, c'est de revoir complètement le fonctionnement institutionnel de nos régions si on veut que nos régions existent et soient concurrentielles avec Barcelone, avec Berlin, avec l'Italie. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? De la politique politicienne. Et vous croyez que les gens vont accepter ça ? Non. Alors voilà pourquoi j'ai rejoint Philippe Sorel. Parce qu'il a compris que défendre la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, défendre Montpellier et défendre Toulouse, ça passait par les citoyens. Et aujourd'hui, les citoyens, ils auront les élus qu'ils méritent. S'ils votent Sorel, ils auront des citoyens qui ne sont pas des citoyens inféodés, qui seront là pour... Ils seront inféodés seulement aux intérêts de la région, à l'intérêt général. S'ils votent pour les autres, ils vont voter en fait pour des partis politiques. Et quand même, dans ce pays, c'est fort. Quand il y a un sondage, on vous explique que 80% des Français rejettent les partis politiques. Et quand on leur demande pour qui ils votent, eh bien, ils votent pour ceux qui ont l'étiquette politique. Cherchez l'erreur.
Oui, alors, attends, Toulouse, juste une petite seconde.
Sur le loup, hein.
Oui. Alors, il faut industrialiser la région. T'es au courant que Toulouse est hyper industrialisée ?
Mais c'est pas vrai.
Ah si, ah bah, Toulouse est une ville ultra-industrielle,
riche, il faut savoir que Toulouse et Montpellier, enfin, Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées, nous avons à peu près les mêmes budgets. Toulouse est industrialisée autour de Toulouse et autour de son pôle aéronautique et aérospatial. Il y a environ 700 entreprises, mais tout le reste, c'est très différent.
C'est la campagne.
Or aujourd'hui...
Ah oui, c'est de l'agriculture. Bon,
J'ai entendu M. Régnier expliquer sur une radio... Hein, être sceptique sur l'avenir de l'aéronautique. Attendez, c'est folie. Moi, il se trouve qu'au Sénat, je suis à un groupe qui s'intéresse à l'aéronautique, dans un groupe qui s'intéresse à l'aéronautique. Bon, on a en gros, si vous voulez, aujourd'hui, des 9000 commandes d'avions sur le monde, réparties entre Airbus et Boeing. Ça veut dire qu'on a 9 ans de commandes. Et vous avez vu, il allait encore tomber 200, Chine, oui. 200 dans le week-end. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a je ne sais plus combien de dizaines de milliers de recrutements de pilotes. Sauf qu'il faut savoir que tout ça va générer de façon très forte, plus tout ce que la science va inviter, tout ce que la technologie va inventer de nouveau. Bon, mais qu'est-ce que je vois, moi ? Je vois des bureaux d'études qui vont, de l'aérospatial et de l'aéronautique, qui vont s'installer à l'extérieur. Et moi, je veux qu'ils s'installent ici, dans notre région. Voilà pourquoi je veux des zones franches stratégiques. Après, il y a tout le reste. Il y a l'industrie qui est non délocalisable. C'est l'industrie du tourisme. La loi littorale nous bloque. Regardez la Grande Motte, qui aujourd'hui est figée, congelée. Hein ? Ben, elle restera congelée tant qu'on n'aura pas changé la loi littorale. Sans être barbare, sans s'attaquer à l'environnement. Il y a des choses à faire. Or, aujourd'hui, on ne peut pas les faire. Qu'est-ce qu'il faut à la Grande Motte ? Ben, il faut que des bateaux avec 2000 personnes dedans puissent s'arrêter, tout simplement. Hein ? Et qu'entre Barcelone et Gênes, hein, ils puissent s'arrêter. Eh bien non, ils ne peuvent pas s'arrêter aujourd'hui.
7, ça suffirait
bien. Non, mais attendez. La Grande Motte, c'est plus connu dans le monde que 7. Hein ? Brassens, c'est connu. Mais Sète n'a pas une réputation touristique aussi forte que la Grande Motte. Bon, et puis la Grande Motte, c'est à côté de Montpellier. Hein. Bon, qu'est-ce que je vous dis ? Mais je suis en train de vous expliquer qu'il y a des milliers de personnes qui passent au large et qui ne s'arrêtent pas parce qu'on n'a pas les infrastructures pour qu'ils s'arrêtent.
Non, mais là, vous parlez de plaisanciers, là. Non, de bateaux de croisière. Les bateaux de croisière, c'est notre problème.
Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent.
C'est de ça qu'ils parlent, je crois.
Non, non, mais les bateaux de problème, les bateaux de croisière, il faut qu'il y ait des structures qui soient.
Mais c'est exactement ce que tu as dit.
Qui sont énormes.
Eh bien, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? On ne peut pas le faire parce que la loi Littoral s'y oppose.
Non, bien sûr que si.
Non, mais c'est un dossier que j'ai parfaitement étudié. J'avais même fait, quand j'étais député, j'avais même fait voter des crédits pour des études. Bon, donc moi, je reviens au problème. Aujourd'hui, nous avons une région qui est géostratégiquement très, très bien implantée. On a des potentialités. On a une multiplicité de start-up dans tous les domaines qui sont
extraordinaires.
Et de savoir. Quand j'entends dire qu'on va faire la cité du savoir, mais nous sommes déjà la cité du savoir.
À Montpellier,
il faut simplement la faire monter d'un cran. Mais ça implique un engagement fort des élus. Ça implique une vision. Et ça ne peut pas se faire seul, ça doit se faire avec l'État.
Quand vous jouez la proximité contre la proximité des élus par rapport au territoire.
Moi, je veux jouer le réalisme. Aujourd'hui, il faut savoir que nous ne sommes pas à armes égales avec les autres régions européennes. Pour des raisons administratives. Parce que nous avons des boulets aux pieds. Donc le premier acte politique d'une force politique émergente dans cette région, c'est de faire sauter les boulets administratifs. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les élus locaux et les élus nationaux...
Et qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, par exemple, la région de créer une zone ? Moi, je prends un seul exemple.
Tout ce qui touche aux finances publiques, je prends un seul exemple.
À l'heure actuelle, par exemple, pour créer une usine pour fabriquer de la lessive, ça coûte 3 francs 6 sous pour produire de la lessive. Et de la lessive de qualité, etc. Bon, qu'est-ce qui empêche la région de monter une société ou monter un partenariat pour créer une marque de lessive Midi-Pyrénées qui, en fin de compte, au moins nourrirait les hôpitaux, les écoles, les administratifs, etc.
Je ne connais pas ce dossier, mais tous les dossiers sont intéressants.
Rien ne l'empêche.
Non, mais ce qui l'empêche aujourd'hui,
Je prends cet exemple-là, mais il peut y en avoir dans beaucoup d'autres domaines.
Toute implantation industrielle a des contraintes fortes.
C'est vrai, par exemple, pour faire des vaccins, les piqûres, les seringues. Qu'est-ce qui empêche la région de favoriser, par exemple, l'entreprise de seringues pour nourrir les hôpitaux de Toulouse et de Montpellier ?
Permettez-moi de ne pas entrer dans des exemples comme ça que je ne connais pas pour ma part. Je reste sur des principes. Le principe, il est simple. C'est que si on veut industrialiser notre région, la rendre compétitive avec les autres régions, ce qui est la clé de notre survie, il faut aujourd'hui que nous exprimions une volonté politique de faire évoluer les choses. Voilà. Et c'est l'évolution des choses passe par une évolution des règles qui s'appliquent à notre région comme à d'autres. Il faut que l'État accepte une déconcentration de ses moyens. Il faut que nous ayons une meilleure maîtrise de la fiscalité nationale. Il faut que les contraintes administratives soient revues. Il faut qu'on crée des zones franches stratégiques. Il faut que nous ayons les moyens de capter ce qui part à l'étranger. Il faut que nous ayons les moyens de donner encore plus d'air aux entreprises locales. Et là aussi, quand j'entends M. Régnier nous expliquer qu'il va investir 650 millions par an, c'est exactement ce que nous investissons à Castelnau-le-Lez sur 4 ans. C'est-à-dire exactement ce qui se fait dans le bâtiment et les travaux publics dans une commune de 20 000 habitants. C'est pour ça que je vous explique aujourd'hui qu'il faut arrêter d'écouter tous ces saltimbanques. Il faut que celles et ceux qui ont fait leurs preuves dans cette région, et le maire de Montpellier est de ceux-là, il faut qu'on comprenne que la politique politicienne est en train de tuer la République.
Voilà, alors tu nous dis qu'il faut faire de la démocratie de proximité, véritablement.
C'est la démocratie de l'intelligence.
Alors à propos de démocratie de proximité et d'intelligence, j'aurais une petite question, mais c'est à propos de quelque chose vraiment de proximité, vraiment de local. C'est à propos de ce qu'on appelle à Montpellier le cercle Mozart.
Et dans je n'en suis pas membre.
Voilà. Oui, mais alors justement. Michel Fromont, visiblement, s'est rallié à Dominique Régnier. Et ce, officiellement, est fait campagne. Étant donné qu'il est le patron et le fondateur du Cercle Mozart, on peut s'interroger.
Monsieur Régnier est allé devant le Cercle Mozart, il n'a pas fait un tabac.
Or, le
donc
fils,
moi, je propose qu'il
fils,
y retourne.
Or, le fils de Jean-Jean, qui est avocat, qui travaille au cabinet de Maître Scheuer, un ami commun, qui est pote avec toi. Et c'est lui qui, visiblement, a organisé un peu la cabale juridique contre Régnier. Et puis, il y a Delacroix au Cercle Mozart. Delacroix qui est pour qui ? Pour le PS ou pour Sorel ?
Attendez, monsieur Leloup, juste une chose. On ne sait pas tous qu'est-ce que c'est le Cercle Mozart dans les auditeurs.
Les gens qui sont un peu informés.
Les auditeurs, je ne suis pas sûr.
En l'occurrence, sur le plan purement local, est-ce qu'il n'y a pas carrément une embrouille et un jeu de place ?
Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui intéressait les partis politiques, ce n'était pas l'intérêt général, c'était l'intérêt des partis politiques. Et ce qui, dans les partis politiques, intéresse les responsables, ce n'est pas l'intérêt global de leur parti, c'est leur intérêt personnel, de savoir s'ils seront dans une place éligible ou pas. Je vous renvoie à un article de presse, édité par l'un de vos confrères, qui explique ce que vaut le prix d'une place éligible sur la liste Régnier. Mais vous vous rendez compte, quand les gens vont lire ça, 15 000 euros, tu es éligible. Non mais on va...
Ça a bien circulé sur les réseaux sociaux.
Mais c'est
ça,
une honte. Chez Sorel, tu peux venir avec 15 000 euros, tu n'auras pas une place. Tu auras une place si tu es dans une ligne d'intérêt général. Il ne demande pas d'argent aux gens. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'argent. Quand vous avez un message fort...
Alors, Monsieur Grand, on a bien compris votre discours. Alors, comme cette émission est un peu particulière, on ne fait pas de pause musicale comme ça. Ça va vous permettre de ne pas partir trop tard. Vous m'avez demandé tout à l'heure. Donc, on a raccourci un petit peu. Ce que je vais demander simplement...
Vous êtes dit beaucoup de choses.
Oui, non, mais c'est très bien. Mais simplement, donc, on a bien compris que vous avez envie que ça se change. Mais moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à franchir ce cap des 10%?
J'en sais rien, mais là, je m'adresse aux auditeurs.
Oui.
C'est eux les citoyens. Moi, je suis un citoyen parmi des citoyens. Il se trouve que j'ai une expérience et j'essaie de faire bénéficier.
Une grande expérience.
J'essaie de faire bénéficier mon expérience. J'essaie d'en faire bénéficier l'équipe de Philippe. Mais c'est pas moi le décideur. Ce sont les citoyens, on est en démocratie. Donc s'ils estiment que les partis politiques, c'est eux qu'il faut soutenir, ils vont voter pour les partis politiques. Voilà. Et puis s'ils estiment qu'il faut soutenir tous ces maires, le président, le maire de Montpellier qui se bat pour sa ville, parce que c'est incontournable l'élection de Philippe, de la candidature de Philippe Sorel. Quand Philippe Sorel a été candidat au municipal, il ne savait pas qu'il allait y avoir cette grande région. Il ne savait pas que les... Et personne ne le savait, d'ailleurs.
Que
les administrations allaient se barrer à Toulouse. Il ne savait pas qu'on était dans une règle de concurrence. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il fallait faire. Vous croyez que Fraîche, il aurait laissé courir? Mais bien sûr que non. Et vous croyez que si j'étais maire de Montpellier, je laisserais courir? Bien sûr que non. Bon, donc, notre intérêt commun aujourd'hui, c'est de mener le combat. Et le peuple du Languedoc-Roussillon, de Montpellier, doit nous suivre. Il doit suivre Philippe dans cette affaire-là, parce qu'il s'agit de la défense de leurs intérêts.
Mais alors, au niveau des sondages, justement, on fait beaucoup de choses.
Je m'en fous des sondages.
Ah oui, est-ce qu'il ne serait pas un peu en voie de chabanisation?
Non, mais attendez, d'abord...
C'est-à-dire, on l'a fait monter.
Non, mais s'il est en voie de chabanisation, ça me va très bien, parce que Chaban a fini à 14%.
D'accord.
Ah oui, c'est déjà pas si mal que ça. Oui.
Le but de Philippe Sorel...
Le renard qu'on laisse parler de temps en temps.
Qui est aussi le vôtre, parce qu'on a très bien compris votre engagement, vous l'avez très bien explicité. Vous avez explicité les grandes lignes, disons, de la politique de Philippe Sorel. Et si, effectivement, donc son but, c'est quoi? C'est de passer la barre des 10% dans un premier temps?
C'est pas son but, c'est l'intérêt général. Le problème aujourd'hui, c'est que l'intérêt des partis politiques, c'est que Sorel soit en dessous de 10. L'intérêt général, la défense de l'intérêt général commande qu'il soit au-dessus de 10. Et moi, je le redis à vos auditeurs, il faut soutenir l'intérêt général, et c'est Philippe qui représente l'intérêt général.
Vous ne pensez pas, Monsieur Grand, qu'il y a même un peu comme une coalition contre cette liste que vous représentez par tous ces partis politiques, d'ailleurs toutes tendances politiques
Ça devrait motiver les citoyens, ça.
Parce qu'on entend, nous, quand on reçoit, vous en doutez bien, toutes les listes, et on entend toujours un petit peu ce discours qui est, quand on parle de la liste Sorel, c'est pour simplifier, je dis la liste Sorel, c'est une liste citoyenne, hein, on entend toujours les partis politiques dire, de toute façon, ils ne vont pas faire plus que 4 ou 5%.
Oui, parce qu'ils sont dans le raisonnement ça, de leur intérêt politique.
D'accord, on entend ça.
Ils se foutent, comme de leur première liquette, de l'intérêt général. Et moi, je redis avec beaucoup de force, qu'en politique, si vous n'avez pas le sens de l'intérêt général, d'abord, vous ne durez pas, parce que les citoyens, un jour ou l'autre, s'en rendent compte, et surtout, vous faillissez, vous êtes complètement en dehors des règles morales de la vie politique.
Bon, on a compris un peu au niveau programme, mais juste une question rapide. Philippe Sorel, est-ce qu'il a l'âme d'un chef ?
Oui, parce qu'il a... Alors, il y a quelque chose que je découvre chez Philippe Sorel, c'est sa vision. Je découvre qu'il a une vision qui s'appuie aussi sur une réflexion historique des choses, sur une connaissance en profondeur de notre territoire, sur un amour profond du citoyen. Et à partir du moment où il a cette capacité à réfléchir à ce que nous sommes dans cette région, il a la capacité à réfléchir à ce que nous devons devenir. Et vous voyez, aujourd'hui, ce matin, il a fait quelque chose qui m'a paru très, très, très bien. Il est allé à Celle-Neuve déposer une gerbe dans un cimetière, rendre un hommage, dans un cimetière où aucun maire de Montpellier ne s'était rendu depuis un siècle. C'est-à-dire qu'il a remis à l'honneur un quartier de Montpellier. Donc il est à la fois dans la proximité...
Le premier quartier de Montpellier, d'ailleurs.
Dans la mémoire, mais il est aussi dans le grand et beau combat politique tel que...
Je crois que Mme Jeannin et un des conseillers départementaux étaient ce matin aussi au cimetière protestant.
Oui, mais elle a raison.
Probablement pour déposer aussi une gerbe.
Mais aujourd'hui, on était tous dans les cimetières. Mais je vous faisais allusion à ce geste symbolique qui n'est pas que symbolique, qui exprime, si vous voulez, une force de réflexion. Et moi, je pense qu'un homme politique qui a une force de réflexion est un homme politique qui sert l'intérêt général.
Bon, on va vous garder encore 5 minutes, c'est possible ?
Allez,
5 minutes.
C'est un bonheur,
on va laisser un peu le renard discuter avec Monsieur Grand, parce qu'on ne vous a pas entendu beaucoup parler. Si vous avez quelques questions à poser, Monsieur Renard.
Vous méfiez des renards, sinon.
on vous laisse parler un petit peu, si vous voulez bien, le renard. Sans ça, bien sûr, le loup peut toujours intervenir.
Je comprends très bien, effectivement, la volonté qui anime... la liste de Philippe Sorel, et Philippe Sorel lui-même, puisque c'est lui qui a été à l'initiative de la liste. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'effectivement, c'est vrai que tous les combats commencent... Il faut commencer un combat.
Ah, on ne perd que les combats qu'on ne mène pas.
Exactement. Mmh. Mais là, dans l'immédiat, quand même, bon, il me semble un peu illusoire qu'effectivement... la liste à laquelle vous participez sera majoritaire.
Alors je dis pour les auditeurs, je suis en dernière position parce que je ne cherche pas à être élu. Vous
non,
vous
non,
bien.
Non, non.
J'apporte ma caution personnelle.
Oui, mais ça, j'ai pas fait. On a compris que vous ne cherchez pas un intérêt personnel là-dedans, on a compris.
Ça, je l'ai très bien compris.
Il y a que des coups à prendre.
Et comme je vous connais, je n'en doute pas. Voilà. La question, elle n'est pas là. Moi, la question, c'est que je me dis qu'effectivement, Philippe Sorel a très peu de chances aujourd'hui, malgré toute implication qu'il peut amener à son combat,
dans cette grande région,
d'être une liste majoritaire.
Et De Gaulle aussi était un peu seul le 18 juillet 40.
Et alors, dans l'hypothèse où effectivement il n'est pas majoritaire, qu'est-ce qui se passe après au deuxième tour ?
Non mais je pense qu'il faut faire les choses par étapes.
Parce qu'il faudra bien y revenir au parti politique.
Au parti communiste.
Non mais attendez, aujourd'hui tout est fait pour que le Front National... tout est fait aujourd'hui pour que le Front National... gagne cette élection. Les discours sont des discours...
Ça, c'est intéressant, Front National.
Pourquoi, moi, j'ai dit que je n'aimais pas M. Régnier ? Je ne l'aimais pas, non pas parce qu'il est parachuté, bon, à la limite, c'est plus dans l'air du temps, mais bon. Je ne l'aime pas parce que ses idées, ce qu'il a écrit en tant que universitaire, en tant que politologue, ses idées, je l'ai dit, c'est un mur d'escalade pour le Front National.
C'est ce que je pense aussi.
Et tout ce qui est un mur d'escalade pour le Front National doit être combattu.
Je le pense aussi.
Alors, donc...
Mais vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir ce que vous ferez au deuxième tour.
Et moi, je ne suis pas au deuxième. On n'est pas au second tour. On n'est même pas au premier.
Non.
Moi, ce que je dis...
On ne sait même pas les candidats.
Moi, c'est un appel aux citoyens. citoyen de ce Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. D'ailleurs, en Midi-Pyrénées, mes collègues sénateurs au Sénat me disent que les listes de Philippe Sorel sont excellentes, et en particulier en Haute-Garonne.
Il a su s'entourer de d'élus locaux, je suppose.
Ceux qui me le disent, oui, visiblement, ils présentent des gens qui sont des gens intéressants, qui présentent vraiment, qui ont un profil, devrait capter l'attention et la confiance de ses
parce
de
leurs concitoyens. Parce que lui, Philippe Sorel, n'est pas très connu, bien entendu, c'est normal.
Si vous mettez M. Moudenc, le maire de Toulouse,
non, sur la
place
sûr,
de la Comédie à côté des Trois Grâces, les gens vont venir le saluer. Non.
Bon. La parole, Philippe... là où il y a peut-être un problème, c'est que Haute-Garonne, oui, tout le monde s'accorde à dire qu'il a fait une liste assez bien, de la même façon en Ariège aussi, par exemple. Par contre, dans le Gard, visiblement à Nîmes, d'abord, un, personne ne connaît Sorel, et deux...
exagère le loup.
Si les auditeurs de Divergence ne connaissent pas Cercle Mozart, alors
non,
ça,
je pense que la notoriété de Philippe ne s'arrête pas au Vidourle. Hein. Je me suis rendu il n'y a pas longtemps avec lui dans le Gard, j'ai vu comment les gens l'interpellaient dans la rue. Non, il n'y a pas
Est-ce que vous ne pensez pas, M. Grand, que...
Ah, le renard.
Aujourd'hui, il y a une tendance qui fait que l'électeur se prononce pour un candidat... Il ne se prononce pas pour un candidat, justement. Il se prononce tout... Il vote contre un autre candidat qu'il ne veut pas avoir.
Parce que j'ai parlé de M. Rémier, mais il faudrait aussi que je parle de Carole Delga. Oui. Carole Delga, c'est quoi? Mais ce n'est pas un programme, c'est un accent. Vous comprenez bien que ça...
C'est la même...
Mais elle n'a rien à dire. Mais rien, voilà. Hein? Rien.
On essaiera de la voir pour lui poser des questions.
Il distribue des subventions.
Encore un peu, il va nous dire que c'est une blonde. Mais elle n'est pas blonde.
Non, je n'ai pas dit ça.
Donc vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'électeur, en fin de compte, va aux urnes et dépose un bulletin pour voter contre.
Oui, mais nous, on voudrait les faire voter pour. C'est pour ça que j'appelle...
Ça serait plus logique.
À partir de votre... Et c'est la première fois que je le fais, mais j'espère le faire à d'autres occasions et ailleurs. j'appelle vraiment à une prise de conscience. Parce qu'il y a un double danger dans cette région, triple danger, la confiscation par deux partis politiques de l'élection, avec à l'arrivée un refus des électeurs d'accepter ça et éventuellement de voter pour le Front National. Et Philippe Sorel doit être mieux connu. C'est pour ça que j'explique les choses comme elles sont. Et donc je le dis aujourd'hui, si vous voulez être bien défendu par des gens d'expérience, par des gens intègres, par des gens qui ont le sens de l'intérêt général, eh bien, il faut suivre les listes de Philippe Sorel.
Eh bien, merci, Monsieur Grand, d'être venu et d'avoir... vous étiez un peu en retard. vous étiez un peu arrivé en retard. On peut comprendre l'agenda.
J'ai rattrapé le retard.
Oui, vous avez rattrapé le retard.
Mais monsieur, c'était passionnant vous étiez venu à l'heure, parce qu'on aurait pu discuter un petit peu.
Voilà, on a fait une émission un petit peu écourtée. La semaine prochaine, on la fera dans sa totalité d'une heure. Et on ne sait même pas qui c'est quand on va recevoir la semaine prochaine.
Non, on pourrait demander éventuellement à Jean-Pierre Grand les minutes qu'on a récupérées. On peut les donner à qui?
voilà. À qui on veut. Allez, à qui on veut. En tout cas, merci.
Donnez-les à un républicain.
Républicain.
Au sens
le plus large.
Noble.
Au sens naturel. Voilà.
Ah bon.
De la défense de la République et de l'intérêt, du sacro-saint intérêt général.
Merci en tout cas. Et à la semaine prochaine pour nos auditeurs provoscopiennes, provoscopiens.
J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est...